Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Ça n'a pas été annoncé, mais il y a une petite bougie qui est là, la flamme. Et pendant ces 4 semaines, Jeff et moi, on va vous proposer un chemin. Alors, je vais faire le premier quart. Lui, il va se charger des 3 autres quarts. C'est normal, hein? Et ce chemin va nous conduire jusqu'à la crèche, à la rencontre avec Jésus-Christ, ce petit homme qui vient de façon assez étonnante et dont Noël est le symbole finalement. Ce bébé qui arrive de façon inattendue, ce bébé qui a une histoire que peut-être on connaît pas si bien que ça. Et une des premières questions qu'on peut se poser, c'est ce bébé, mais d'où vient-il? Ah, bien sûr qu'il vient du ventre de sa mère. Donc ce bébé, il est arrivé il y a 2000 ans, il arrive dans une crèche et il arrive chargé de toute une histoire qui est derrière lui. Parce que c'est ça Noël, au bout du compte. Bien sûr qu'on a choisi la date, mais au bout du compte, pour nous, Noël, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Et la Bible nous enseigne qu'il n'est pas là par hasard. Et elle nous enseigne aussi que la façon dont il est arrivé a du sens pour nous aujourd'hui. Et c'est ce sens-là que je vous propose d'aller visiter ce matin. Et pour comprendre, on va aller du côté des plus vieilles prophéties qui étaient proposées à Israël pour voir comment ce bébé avait été annoncé et du coup pour essayer de comprendre quelle a été la surprise de ses contemporains. Et donc je vous propose de faire un petit tour du côté d'Ésaïe. Le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. Un autre passage. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres, une lumière se met à luire. Seigneur, tu rends leur joie immense. Tu as fait grandir leur allégresse. Ils se réjouissent en ta présence comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu, dès à présent et pour toujours. Ésaïe 11. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Jessé, c'était le père de David. Un rejeton pousse de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après des raconteurs. Il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays. Sa sentence fera mourir le méchant. La justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte toujours autour des reins. Et puis, je vous propose d'aller faire un saut dans le temps et d'aller voir ce que Paul nous dit de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. On va essayer de voir ce que signifie cette prophétie. Ces prophéties, parce qu'il y a comme ça trois passages dans Ésaïe. Et peut-être, il faut essayer de comprendre le contexte. La première des choses, c'est que Ésaïe a vécu il y a très longtemps et qu'il a traversé plusieurs règnes pendant le royaume d'Israël. Des règnes prospères, notamment celui par exemple du roi Ozias, où la prospérité faisait que le peuple était heureux de vivre, et en même temps, le luxe était arrivé, et des propriétaires avaient acquis la terre d'Israël, et l'injustice était présente parce qu'ils utilisaient leurs frères comme des esclaves ou comme des serviteurs. Et puis, Ésaïe a vécu aussi des moments où la menace nationale était présente. Et du coup, son travail va être d'avertir le peuple de la part de Dieu, à la fois pour, même dans un moment où on a le sentiment que tout va bien, il va interpeller le peuple pour retrouver une société, une démarche individuelle de justice. Et donc, en faisant ça, bien que tout semble aller bien et que Dieu semble bénir son peuple, il intervient de façon décalée pour rappeler le sens de la vie du peuple sur la terre et le sens de la vie telle que Dieu la souhaite. Et puis au moment des menaces, son message va être un message de réorientation du regard du peuple sur le Dieu souverain pour retrouver de l'espoir. Et donc les prophéties d'Ésaïe sont à la fois des prophéties qui prennent sens dans le temps où elles sont prononcées, mais c'est aussi des prophéties qui nous permettent de sortir de cette contingence pour rencontrer et pour permettre de recentrer le peuple sur le Saint d'Israël, c'est-à-dire ce Dieu qui est transcendant et ce Dieu qui est exigeant quant à l'engagement de ses fidèles. Et pour Ésaïe, on voit ainsi que Dieu se révèle dans cette double logique, à la fois dans une logique vraiment en prise avec le monde dans lequel il est, dans lequel nous sommes, et à la fois dans une histoire, Dieu se révèle dans une histoire qui lui est propre et qui ne coïncide pas toujours avec celle du temps. Il y a plusieurs conséquences à ça. La première, c'est que pour Ésaïe, le plan ou le conseil de Dieu est celui d'un Dieu caché, déroutant, incompréhensible, mais toujours plus sage que les conseillers les plus habiles. La deuxième, c'est que, bien que convaincu de la souveraineté du plan de Dieu, Ésaïe attache beaucoup d'importance à l'activité et l'initiative des hommes, et il leur donne une place et un prix qui appartient à chacun. Et en plus de ces caractéristiques, Ésaïe nous présente Dieu sous un visage assez étonnant dans l'Ancien Testament. C'est un Dieu qui sauve en raison de son amour. Il nous présente un Dieu dont l'amour est celui d'un père, dont l'amour est celui d'une mère, dont l'amour est celui d'un époux. Il nous présente un Dieu dont l'amour est tel qui surmonte le péché humain. Dieu annonce à son peuple qu'il efface son péché, qu'il lui pardonne totalement, et qui propose un salut qui l'affranchit et qui le libère. Au total, on voit que le Dieu d'Ésaïe, c'est un Dieu déroutant, c'est un Dieu qui insiste sur l'importance de notre engagement, de nos actions et de nos initiatives, et qui les valide, et puis c'est un Dieu qui aime. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'amour? Alors pour comprendre ce lien, encore une petite chose, Je voulais vous dire que les écrivains du Nouveau Testament ont été cherchés dans le livre du prophète Ésaïe, qui sont ses prophéties fondamentales en Israël, plus que dans tout autre livre de l'Ancien Testament, les signes de l'accomplissement des promesses de Dieu, notamment concernant la venue du Messie promis. Et c'est ainsi que les versets qu'on a lus dans Ésaïe sont utilisés par les auteurs du Nouveau Testament comme explication que Jésus-Christ est bien le Messie attendu. Or, que nous disent ces versets ? Ésaïe 7, Emmanuel, un enfant, un garçon. Le contexte de ce verset nous dit que ce garçon n'est pas n'importe quel garçon, c'est l'héritier de la dynastie royale. Parce que l'oracle s'adresse à la maison de David, et parce que la jeune femme qui représente celle qui va donner naissance à ce garçon, c'est une femme par excellence, c'est la femme par excellence, c'est l'épouse du roi. Et puis quand on regarde ce que veut dire Emmanuel, en fait probablement ce nom n'est pas le nom de est en fait un nom symbolique, c'est pas le nom d'une personne, c'est pas le nom d'un enfant. Mais c'est un nom qui est utilisé dans le livre d'Ésaïe comme porteur d'une promesse de salut et comme un gage de victoire. Donc on a dans ce verset le Messie qui est annoncé comme l'héritier du roi, comme le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, et comme celui qui est porteur du salut de Dieu. Et ce verset-là a été repris dans Matthieu au chapitre 1, au verset 23, comme l'accomplissement, la preuve de l'accomplissement de la venue de Jésus-Christ comme Messie. Ésaïe 9, la lumière annoncée dans les ténèbres, par l'enfant qui siège sur le trône de David, son père. Les titres qui lui sont accordés, c'est « Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix, chargé d'exercer l'autorité de Dieu. » Excusez du peu. Ces titres-là sont les titres qui sont repris dans Luc pour annoncer par l'ange Gabriel à Marie l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Ésaïe 11 nous décrit l'héritier de David, possédant la sagesse, prononçant le jugement sur le méchant, pratiquant la justice avec autorité. Quand on reprend ces passages-là, on comprend un peu mieux qu'ils avaient créé une attente messianique forte en Israël, surtout dans le contexte de l'occupation romaine, parce que, à l'image de cette grandeur qui est décrite par Dieu dans les prophéties, le peuple d'Israël attendait un Messie qui était roi, un Messie qui était libérateur, un Messie qui était politique, et dont la mission serait de libérer le peuple et de vaincre les ennemis. Et voilà l'image que le Messie avait au moment où Jésus-Christ est arrivé. Et là, il y a une rupture. Alors oui, selon les prophéties, la jeune femme donne bien naissance à un garçon. Ce garçon est bien descendant de David. Oui, cette naissance est annoncée par les anges, comme celle du Messie que le peuple attendait. Mais voilà, loin des titres qui étaient annoncés, ce bébé naît dans une famille pauvre d'Israël, qui n'a rien à voir avec la splendeur du royaume passé, qui n'a rien à voir avec l'autorité et la puissance annoncée. Ce bébé arrive dans une étable puante et sale, dépendant de l'autre pour sa vie. Comme tout bébé, il est fragile. Et quand il grandira, il prêchera dans la pauvreté. Il n'aura pas de maison. Il se sauvera quand la foule voudra le faire roi. Il acceptera l'opposition du peuple. Il acceptera l'occupation romaine. Il acceptera l'impôt dû à César. Et à la fin de son passage sur la terre, il acceptera un procès injuste. Il acceptera la mort sur la croix de la part de ceux qu'il est venu chercher. Pour le roi annoncé, c'est pas très fort. Est-ce qu'il n'y a pas une discordance là? Et qu'est-ce que cet écart a à nous dire aujourd'hui? Personnellement, j'y vois plusieurs enseignements. Comme Ésaïe l'avait compris, Dieu est un Dieu déroutant. Jeff l'enseigne bien aux ados, là, pendant le caté. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Et Dieu est omniprésent. Et voilà que ce Dieu infini, en Jésus-Christ, il vient manifester sa gloire, mais d'une manière complètement décalée, d'une manière inattendue, incompréhensible. Car il n'utilise pas sa grandeur dans la rencontre qu'il a décidé de faire avec nous pour nous convaincre. Il n'utilise pas sa grandeur pour nous contraindre, mais il imagine et met en œuvre un moyen stupéfiant pour s'approcher de nous. Il devient tout simplement un homme. Mais qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire ça? Alors, comme Ésaïe l'avait aussi déjà compris, c'est que Dieu nous aime. Par son amour, il veut nous gagner. À cause de son amour, il veut nous laisser libres. À cause de son amour, il veut construire avec nous une relation de proximité et de compréhension. À cause de son amour, il sait que nous valons bien la peine de renoncer à tout pour nous gagner. Et comme Ésaïe l'avait compris, la dernière chose, c'est que Dieu souhaite et respecte et valide notre engagement. Non pas dans une contrainte, mais dans le cadre d'une responsabilité qu'il nous donne. Et que la foi qu'on construit avec lui, cette démarche fondamentale, elle est construite à la fois dans l'engagement d'une relation qui se construit au jour le jour, et dans la confiance, dans l'amour qu'il nous a témoigné. On retrouve là les versets de Philippiens dont on a parlé. Possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme, il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, aujourd'hui, de quoi ça nous parle dans notre vie de chrétien au XXIe siècle? Je pense que ça nous parle à plusieurs niveaux. Premier niveau, peut-être, c'est celui de notre relation avec Dieu. Tout comme Dieu nous a appris qu'il avait accepté l'impuissance, alors, nous aussi, dans notre relation avec Dieu, il nous demande de ne pas rechercher le pouvoir. Et peut-être la première des choses, c'est que il nous demande aussi de ne pas chercher à soumettre Dieu, de le soumettre lui-même à notre désir ou à notre volonté. Il y a des milliers de façons de le faire. Que ce soit par la prière, que ce soit par les injonctions, que ce soit par une démarche de recherche de fidélité. On a des tas de manières de détourner comme ça cette relation qu'on a construite avec Dieu, que Dieu veut construire avec nous, pour tenter de le soumettre à ce que nous on veut et de ce que nous on décide. Deuxième des choses, c'est qu'il veut pas construire avec nous une relation pour nous donner du pouvoir. La relation que nous construisons avec Dieu est plutôt orientée sur le fait qu'il cherche à travers elle à accepter, à construire avec nos limites humaines. Il n'est pas question ici de trouver en lui une source de pouvoir qui va nous permettre de nous dépasser. Il nous appelle, comme lui l'a fait, il a renoncé à son pouvoir, à sa dimension divine, il nous demande de faire de même. La relation avec Dieu ne nous fait pas entrer dans une sorte de rencontre du troisième type. Elle nous aide à accepter les limites et l'impuissance de notre humanité. Un autre enseignement, c'est que nous pouvons être en paix. Parce que Dieu nous aime et que son pardon est inconditionnel. Il nous aime comme un père. Il nous aime comme un époux. Il nous aime comme une mère. Comme Ésaïe l'avait déjà bien compris. Le deuxième niveau de relation sur lequel on peut s'appuyer, c'est les relations entre nous ou avec nos concitoyens. Comme il l'a fait en Jésus-Christ, Dieu nous demande d'abandonner toute idée de pouvoir sur les autres. Quel que soit l'accord ou le désaccord qu'on a ensemble, quel que soit le sentiment éprouvé, l'inquiétude pour l'autre, que ce soit de la colère, de la peur, de l'amour, quelle que soit la sollicitude démontrée, quel que soit le désir que nous avons pour l'autre, dans toutes ces circonstances, comme Dieu nous a montré son chemin en Jésus-Christ, nous devons simplement être témoins. Un témoin libre des autres, mais un témoin libre pour les autres, pour gagner l'autre, à notre liberté en Jésus-Christ. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est simplement démontrer par notre vie la réalité de la vie de Dieu en nous. Cette vie qui nous a transformés, libérés, et qui nous transforme encore aujourd'hui. Dieu, comme il l'a fait en Jésus-Christ, nous demande d'aimer notre prochain, comme il nous aime lui-même. Comment ? En venant chercher là où il est. En n'attendant pas que l'autre soit nickel, qui corresponde à nos critères du bien, du mal, du beau, du bien, du bon. Dieu en Jésus-Christ s'est approché de nous alors que nous étions loin de lui. Et il nous demande au quotidien, non pas de révolutionner le monde, mais de nous approcher de notre voisin. Nous approcher de notre voisin sans vouloir le convertir à notre mode de vie, à notre façon de voir, à notre façon de faire. Simplement, nous approcher de notre voisin comme signal qu'à travers nous, Dieu est bien présent sur la terre. On voit que la guerre sainte n'a rien à voir avec le message de l'Évangile. Et puis, Dieu, comme il l'a fait en Jésus-Christ, nous demande de laisser l'autre responsable de sa vie. Son engagement lui appartient. C'est lui qui en décide. C'est pas à moi ni de le pousser, ni de le contraindre, ni de décider pour lui-même, même si je suis convaincu que c'est là son bien. Dieu ne le fait pas avec nous. Mais par contre, c'est à moi de le laisser responsable de ses choix et libre de ses engagements. Voilà tout ce qui va donner de la valeur à sa démarche. Et alors, une fois qu'on aura alors compris cette impuissance que Dieu a choisie pour construire sa relation avec nous et dans laquelle il veut nous inscrire, cette impuissance qui se décline dans le fait de laisser la liberté à l'autre, dans l'amour que je lui manifeste et dans la responsabilité où je le laisse dans son engagement avec son Dieu. Alors parce que Dieu est souverain, parce que Jésus est roi aujourd'hui, même si je le vois pas encore, parce que Dieu a toute autorité pour sortir de cette posture d'impuissance dans laquelle il est volontairement entré en Jésus-Christ, alors nous pouvons accepter d'être surpris, par une action de Dieu qui va manifester son autorité. Et je pense que c'est là aujourd'hui le premier message de l'Évangile, qu'on peut lire dans cette discordance entre ces prophéties d'Ésaïe et la façon dont Dieu a choisi de s'incarner en Jésus-Christ, c'est qu'aujourd'hui est marqué par l'impuissance choisie par Dieu. Mais que dans cette impuissance-là, par moment, il y a quelques espaces où, comme dit Paul, il y a un coin du ciel qui se dévoile et qui nous laisse entrer, comme par effraction, dans la dimension future de la royauté de Jésus-Christ. C'est là le message de la crèche. Et c'est là ce message-là dans lequel Dieu nous invite à entrer aujourd'hui, dans cette relation qu'il veut construire avec nous au quotidien. Amen.